71.
Voilà. Excuse-moi, je prends mes affaires.
Page 771. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre.
Je vous invite à la prière. Prions. Merci notre Père pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous fait tant de bien. C'est elle qui nous a enfantés dans la foi. C'est elle qui nous a convertis au moyen de l'Esprit. Et c'est elle qui nous transforme et change aussi par le moyen de l'Esprit. Et nous voulons te demander, Seigneur, d'être à l'œuvre par ton Esprit ce matin, au moyen de cette parole. Enseigne-nous, façonne nos cœurs, pour que nous soyons des enfants qui te ressemblent davantage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes dans Philippiens 2, donc versets 19 à 30. Alors, il y a quelques semaines, nous avons changé légèrement le découpage des textes pour cette série. Donc, on découpe le livre en plusieurs sections un de nos prédicateurs, que je ne vais pas nommer, a dit « Ah, je suis soulagé, parce que ça veut dire que ce n'est pas moi qui prêche sur ce texte ce matin. » Ça arrive, hein? Et en effet, on peut se demander quel est l'intérêt de ce texte. Alors, il y a deux semaines, nous avons eu droit à un régal. François a lu ce texte ce matin. C'est un texte qui ressemble à un cantique, qui évoque toute la beauté et toute la grandeur de Jésus, notre Dieu serviteur, qui s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un esclave et qui s'est humilié jusqu'à donner sa vie sur la croix. Mais dans ce texte, dans le texte de ce matin, Paul revient sur terre. Il ne fait que nous donner quelques nouvelles de ses collaborateurs. C'est comme si c'est un email interne de la mission, une banale lettre de nouvelles. Il nous dit qui va se rendre à Philippe, quand, qui va porter la lettre, et ainsi de suite. C'est de l'administration, quoi. Mais méfions-nous, parce que cette partie de la lettre, elle est importante. Alors, pour n'importe quelle partie ou passage de la Bible, il faut se poser la question, quel est l'objectif de l'autre? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par ce texte? Et quel serait l'effet s'il avait omis ce passage? Qu'est-ce qu'il veut atteindre comme but? Alors, cette section de la lettre, elle est importante parce que Paul est en train de nous donner une illustration. Tout orateur, tout prédicateur qui se respecte illustre ses propos. Et Paul est en train d'illustrer et d'appliquer tout l'enseignement qu'il a déjà donné, nous a donné ces dernières semaines. Nous avons vu que Paul veut que nous ayons une façon de penser qui reflète celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'a vu il y a deux semaines, le Dieu missionnaire qui est venu annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ, le Dieu serviteur qui n'a pas cherché ses propres intérêts, mais les nôtres, en s'humiliant jusqu'à la mort, pour que nous puissions être pardonnés et réconciliés à notre bon Père céleste. Et Paul est venu donner deux exemples ce matin. Deux personnes qui pensent comme Jésus, dont la vie reflète les priorités du Dieu missionnaire et du Dieu serviteur. Alors, je pense que nous avons tous des modèles dans la vie. Je ne sais pas qui sont vos héros, les personnes qui vous inspirent, les gens à qui vous aimeriez ressembler. Il y a peut-être Zinedine Zidane, ou le chanteur Benabar. En tout cas, la société, elle est bien consciente que nos jeunes ont besoin de modèles. Des modèles sportifs, culturels, des modèles dans le monde du travail, des entreprises, des modèles de l'intégration, on parle beaucoup de cela. Alors suivre un modèle, se calquer sur quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, parce que quelqu'un peut-être qui nous a précédé dans l'histoire, c'est quelque chose de très normal et quelque chose de très puissant. Et la vie chrétienne ne fait pas d'exception non plus. Nous avons besoin de modèles vivants, physiques, de la vie chrétienne, de comment la vivre, comment prier, comment servir, comment donner, comment élever nos enfants dans la foi, et ainsi de suite. Et dans ce texte, Paul nous donne deux exemples. Deux disciples exemplaires qui ont des choses à nous apprendre. D'abord, le célèbre Timothée. Timothée est souvent donné en exemple, cité en exemple dans les écrits de Paul. Et ensuite, le moins célèbre, Épaphrodite. Nous verrons que Timothée est un vrai modèle de service et Épaphrodite un exemple de sacrifice. Alors, commençons avec notre ami Timothée. Alors, en quoi Timothée est-il si précieux aux yeux de Paul? Alors, c'est la façon de penser de Timothée qui est si importante, sa perspective sur la vie, sa mentalité. Et cette façon de penser n'est pas simplement son intellect, c'est tout son cœur, ses sentiments. Au verset 19 et 20, Paul dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. » Alors Timothée pense comme Paul. Timothée partage les mêmes sentiments que Paul a. Littéralement, il est d'une seule âme avec Paul. Alors ça, c'est une expression qui nous rappelle le début du chapitre 2, où Paul nous a exhortés, ou a exhorté les Philippiens, à être d'une seule âme les uns avec les autres. Au lieu de se chamailler ou au lieu de chercher leurs propres intérêts, mais plutôt d'être d'une seule âme ensemble. Et Timothée est d'une seule âme avec Paul parce qu'il prend à cœur la situation des Philippiens. Littéralement, le texte parle des intérêts des Philippiens. Timothée a à cœur leurs intérêts. Timothée ne pense pas d'abord à lui-même. Il y en a qui pensent d'abord à eux-mêmes. Et Paul les dénonce au verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Alors, Paul ne dit pas à qui ils pensent tous. C'est pas tous de manière exact ou de manière globale, parce qu'il y a Timothée, il y a Paul, il y en a d'autres, mais sans doute il pense aux chrétiens qui sont autour de lui à Rome, et il les a mentionnés au chapitre 1, qui lui causent des problèmes, qui prêchent Christ par esprit de rivalité. Ils veulent avoir une bonne place, être bien vus, être vus comme meilleurs que Paul. Mais Timothée n'est pas de ces gens-là. Timothée ne cherche pas de manière égoïste l'approbation de Paul. Il ne se soucie pas de sa réputation ou de sa carrière dans l'Église. Ben, il n'en a pas le temps. Car son énergie, son temps, sont passés à s'occuper des intérêts des Philippiens. Et le texte est en cherchant leurs intérêts, Timothée cherchait de manière ultime les intérêts de Jésus lui-même. Alors, Timothée ne s'occupait pas de leurs intérêts dans le sens de leur patrimoine, de leur confort, de leurs vacances, ou même dans le sens de la réussite des programmes à l'église, présent Dieu, les ateliers bibliques, le goûter des seigneurs, ils ne pensent pas à ces choses-là, ça c'est pas si important que ça. Mais dans le sens de la patrimoine chrétien, auprès de Jésus, en Jésus. Sans doute ils passaient ces nuits à se dire, est-ce que les Philippiens se réjouissent en Jésus? Est-ce qu'ils progressent dans la connaissance de lui? Est-ce qu'ils tiennent bon? Est-ce qu'ils osent s'afficher en tant que chrétiens? Est-ce que leur témoignage est percutant? Est-ce que leur mariage reflète un tant soit peu ce mariage entre Jésus, l'agneau, et l'épouse, l'Église? Et surtout, il a dû passer ses nuits à prier pour l'Église. Peut-être avec le calendrier de prière de l'Église de Philippe ou l'annuaire de l'Église, nom par nom. Le verset 22 nous dit que Timothée a fait ses épreuves en se consacrant au service de l'Évangile. Alors, ce qui est évident, surtout avec le contexte, c'est que Timothée est devenu un serviteur exemplaire, c'est parce qu'il connaît celui qui l'a servi de manière extraordinaire, Jésus, le roi serviteur. Ce n'est pas que Timothée est devenu une machine ou un robot fanatique dont la volonté propre n'existe plus. Timothée n'est pas en train d'être forcé, obligé par le légalisme de penser aux intérêts des autres. Timothée veut servir Jésus. Il veut servir son royaume. Pour reprendre les termes du chapitre 2, du début du chapitre 2, Timothée connaît la consolation des péchés pardonnés. Il se régale dans la communion de l'Esprit. Il se sait un fils adopté par Dieu, un fils bien-aimé. Il comprend que Dieu, selon sa miséricorde, ne le tient plus pour condamnable, parce que Jésus a été condamné à sa place une fois pour toutes. Le verset 22 nous dit que Timothée est un enfant avec son père. Alors, je ne sais pas si vous ressemblez à vos parents. Moi, je ressemble surtout à mon père. Alors, le bébé n'est pas moi, mais c'est ma nièce. Et moi, à force de grandir aux côtés de mon père, j'ai fini par mimer un peu ses habitudes, ses bonnes habitudes, ses mauvaises habitudes. Et sans doute ma nièce prendra aussi les habitudes de mon frère, peut-être même des habitudes de mon frère que mon frère a appris de mon père. Paul veut envoyer Timothée, parce que Timothée c'est son fils, il ressemble à Paul. Timothée a à cœur les Philippiens. Alors je ne sais pas si Paul avait un grand choix de personnes, peut-être dans son équipe là à Rome, peut-être qu'il y avait d'autres personnes qu'il aurait pu envoyer à Philippe. Peut-être qu'il les a passées un peu en revue avant de choisir Timothée. Un peu comme si, du genre, peut-être il s'est dit, je peux peut-être envoyer Jean-Philippe. Voilà Jean-Philippe, jeune cadre à la Défense, JP, est en train de grandir, de grimper les échelons de son entreprise d'informatique, il prend son travail au sérieux, est-ce que je peux envoyer Jean-Philippe? Il est honnête à l'égard de son employeur, il travaille bien. Là, Paul hésite. JP, a-t-il vraiment à cœur les intérêts des Philippiens? Il est souvent absent, en fait. Mais quand il est là, il est vraiment charmant, affable. Il s'intéresse guère aux gens de l'Église, ou peut-être aux jeunes chrétiens de l'Église. Peut-être pas Jean-Philippe, peut-être plutôt Timothée. Et puis, il y a Marie-Julie, qui s'est convertie il y a 2 ans. Elle était tout feu, toute flamme au début. Mais ces derniers temps, elle a moins à cœur de parler de Jésus à ses amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Certes, elle a trouvé un refuge dans l'Église, donc elle passe du temps avec des chrétiens. C'est bien, elle a construit des amitiés chrétiennes. C'est bien. Mais elle a moins à cœur l'évangélisation. Et Paul hésite. Est-ce que je peux envoyer Marie-Julie? Non, peut-être quand même il vaut mieux envoyer Timothée. Et puis il y a Henri. Que dire de Henri? Henri se donne quand même de la peine. Il est actif dans plusieurs ministères de l'Église. À cet égard-là, il est irréprochable. Mais en même temps, il est parfois un peu pénible. Il a tendance à froisser les autres. Elle a montré que si l'Église va bien, c'est grâce en grande partie à lui-même. La semaine dernière, la pauvre Ruth a été réduite à sanglots à cause d'une remarque un peu cassante de la part de Henri. Sans l'ombre d'une hésitation, Paul dit non, il faut que ça soit Timothée. Moi, je veux envoyer Timothée parce qu'il aime les gens. Il les a à cœur. Il passe du temps avec eux sans compter. Et quand quelqu'un va mal, il prend le temps de prier avec cette personne. Il ne se croit pas supérieur. Il se met au même niveau que les autres. Et ça le réjouit quand il a formé quelqu'un pour un ministère dans l'église et cette personne le fait mieux que lui. Ah, Timothée, il est ravi de les mettre en avant et de s'effacer pour servir les autres. Timothée, c'est un vrai modèle. Et c'est pour ça que Paul l'envoie. Et nous avons besoin de tels modèles dans la foi, de la foi mise en pratique. Moi, j'en ai besoin. Je remercie le Seigneur pour des gens qui l'a mis sur ma route, qui ont modélé ce que c'est la foi chrétienne. Je me suis rendu compte il y a quelques années que l'une des raisons qui me pousse à persévérer avec une association qui s'appelle Mission Vacances, c'est une association qui fait de l'évangélisation dans les stations balnéaires, c'est simplement la qualité des leaders. Ces hommes ne sont pas des pasteurs, simplement des membres d'église engagés, mais qui ont un vrai, vraiment à cœur de servir de manière humble, de manière sacrificielle. Et on voit Jésus un peu en ces gens. On a besoin de modèles concrets de la foi en action. Et c'est utile d'observer ces gens, ces personnes, de passer du temps avec eux, d'observer leurs habitudes, leurs disciplines, leurs attitudes, ce qui les tient à cœur. Et nous avons besoin d'être de tels modèles de la foi aussi. Qu'on le veuille ou non, les autres sont en train de nous imiter. Ne serait-ce que les enfants de l'Église. C'est une pensée qui devrait nous rendre un peu humbles. Quels intérêts servons-nous ? Les nôtres ou ceux de Jésus-Christ ? Notre façon de passer notre temps, de dépenser notre argent, de prier, tout ça, en regardant ces choses, ça nous aidera à discerner quels sont les vrais intérêts de nos cœurs. Qu'est-ce qui importe à nos cœurs? Et nous avons besoin de revenir sans cesse à la croix et de nous émerveiller de nouveau devant l'humble service de Jésus. Parce que quand on saisit la beauté, quand on saisit la grandeur de son service, du coup, il n'y a plus de place pour la rivalité, pour les ambitions personnelles, pour les murmures, pour les contestations. Quand nous passons du temps dans sa présence, ben nous sommes taillés à son image, tel père, tel fils. Passons à notre deuxième exemple, Épaphrodite. Qui est-il? Manifestement, c'est un membre de l'église de Philippe qui est allé à Rome, ou là où Paul se trouve, on ne sait pas exactement où il se trouve. Il est allé auprès de Paul avec du soutien financier de la part de l'Église. Paul est en prison, Paul a besoin de quoi vivre, et il en dépend. Et l'Église de Philippe, cette Église modèle, a envoyé Épaphrodite avec un don. Sans doute, il a été accompagné de quelqu'un d'autre. C'est la pratique dans l'Église, une bonne pratique pour éviter les tentations et les soupçons de fraude. Mais dans l'exercice de sa tâche, Épaphrodite est tombé gravement malade, jusqu'au point où il a failli mourir. Et l'église de Philippe a eu vent de sa situation gravissime, peut-être par le biais du compagnon de route qui serait rentré après. À cette époque-là, les nouvelles et les lettres circulaient très très lentement, il n'y avait ni poste, ni serveur, routeur. Et manifestement, l'église de Philippe est profondément peinée, perturbée par ces nouvelles attristantes. Et c'est pour ça que Paul a décidé de renvoyer Épaphrodite, et aussi il le renvoie avec cette lettre. Alors Timothée, qu'on vient de voir, lui, il était un héros de l'équipe apostolique, de choc de l'apôtre Paul. C'est une star de l'époque en quelque sorte. S'il était là aujourd'hui, il serait invité dans toutes les conférences. Ses bouquins seraient édités par toutes les maisons d'édition chrétienne. Et ça, on peut peut-être avoir du mal à nous identifier avec Timothée. Il vole très haut, n'est-ce pas? Mais peut-être l'exemple d'Épaphrodite nous rassure un peu. Un homme chargé de tâches administratives, discrètes. Un homme discret qui sans doute, on ne sait pas, mais sans doute il ne prenait pas la parole en public. Pas souvent en tout cas. Mais Paul ne le met pas en avant pour sa compétence administrative, mais pour son attitude de cœur. Et Paul ne ménage pas ses éloges pour cet homme. Le verset 30 nous montre pourquoi. Verset 30. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. En s'exprimant ainsi, l'apôtre Paul est en train de faire un parallèle avec Jésus lui-même. Le verset 8 du chapitre 2, en parlant de Christ, dit « Christ s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. » Et Paul utilise cette même expression pour Epaphrodite, « jusqu'à la mort ». Il est allé jusqu'à la mort. Epaphrodite modèle à son échelle, bien sûr, par son service, cette même attitude de sacrifice que Jésus. Il est prêt, il a été prêt à aller jusqu'au bout. Alors, c'est vrai, à cette époque-là, sans la médecine moderne, de tels voyages étaient risqués. Les conditions sanitaires laissaient à désirer et c'était courant d'attraper une maladie banale et d'y succomber. Mais Epaphrodite ne s'est pas laissé effrayer outre mesure par ces risques incontournables. Et même tombé malade, il voulait mener à terme la tâche qui lui avait été confiée. Alors, cela suscite bien des questions. S'agit-il du fanatisme, de l'imprudence? Alors, lorsque j'étais jeune cadre dans le secteur bancaire à Londres, un jour je me suis rendu compte que tous les chefs de division, quasiment sans exception, avaient subi des opérations médicales graves. Parce qu'ils travaillaient dur, souvent très tard la nuit et souvent le week-end. Et beaucoup d'entre eux ne ménageaient pas leur santé ou leur vie familiale. Ils avaient un esprit de sacrifice. Mais en vue de quoi? En vue de l'avancement de la carrière et de la prime de fin d'année. Et ce serait possible de multiplier les exemples. Les gens autour de nous, peut-être nous-mêmes, on se sacrifie pour bien des choses. Alors, Epaphrodite, est-ce qu'il est en train de faire la même chose? Pas tout à fait. Epaphrodite a simplement un sens juste des priorités. Epaphrodite a sacrifié ses intérêts en vue d'aider Paul dans la vie dépendée de ce don. Il a fait en vue de l'avancement de l'Évangile. C'est pour ça que Paul lui donne, lui, le simple administrateur, des titres glorieux de frère, de collaborateur et de compagnon de combat. Epaphrodite est de tout cœur dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il se donne à fond parce que lui-même est au bénéfice du sacrifice de Jésus. Il a un vrai esprit de sacrifice. Mais faut-il qualifier cette exhortation au sacrifice? Je pense pas. En tout cas, je pense que oui et non. Je vais citer un exemple dans un bouquin que j'ai lu de Carson, où en fait c'est quelqu'un qui cite Carson. Il parle d'une histoire avec un missionnaire au 19e siècle. Et ce missionnaire allait partir loin, en fait, sur une île lointaine. Et quelqu'un lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous allez là-bas? Vous savez que les gens là-bas pratiquent le cannibalisme. Vous allez être mangé par les gens là-bas. C'était un monsieur très âgé qui a posé la question. Et le missionnaire a répondu, vous êtes avancé en âge, monsieur. Et vous allez bientôt mourir. Et vous aussi, vous allez être enterré. Et vous allez être mangé par des vers de terre. Moi, je préfère passer ma vie à servir le Seigneur. Parce que peu importe si je suis mangé par des hommes ou par des vers de terre, nous deux, en fait, vous et moi, nous allons un jour ressusciter avec Jésus, avec le Seigneur, et nous serons avec lui. Donc, peu importe. Donc, dans un sens, Il n'y a pas de qualification à faire. Le service, le sacrifice est primordial. Et en même temps, malheureusement, c'est possible, je pense, de sacrifier les intérêts des autres dans ce service. Et je pense que beaucoup de gens ont eu tendance par le passé à sacrifier les intérêts de la famille, peut-être d'une épouse ou des enfants, sur l'autel du ministère chrétien. Bon nombre de personnes, de pasteurs, d'anciens, de missionnaires ont fait cette erreur. Le service chrétien nécessite des sacrifices, bien sûr. Mais ce même service chrétien implique la priorisation de ses ministères familiales aussi. Si vous êtes un mari ici ce matin, votre premier ministère chrétien, c'est envers votre femme et envers vos enfants. La priorité n'est pas de vivre dans le luxe, d'offrir les meilleures vacances possibles, la meilleure école ou de leur donner une vie matérielle extraordinaire, mais simplement de les aider à grandir en Christ, à l'aimer et aimer de manière sacrificielle leur prochain. Et vous êtes leur premier modèle de cela dans la vie. Et si vous êtes une épouse ici ce matin, votre premier ministère chrétien est envers votre mari et vos enfants. C'est la même chose. Il n'est pas question de sacrifier leurs intérêts, mais plutôt de modeler une vie chrétienne de service et de sacrifice en vue de l'avancement de la bonne nouvelle, du progrès des frères et sœurs dans la foi. Alors, par la grâce de Dieu, notre vie chrétienne de service, de sacrifice, n'impliquera pas forcément le sacrifice de notre santé, mais certainement le sacrifice du désir de nous mettre en avant, d'être bien vu, d'avoir toujours raison, et le sacrifice de notre temps, de nos ressources matérielles, de nos affections. Épaphrodite nous montre que le service sacrificiel est souvent dans l'ombre. Il est transporteur de fonds, de colis. Il ne cherche pas à être en vedette, mais à se rendre utile. Et c'est pour ça que Paul demande à l'église de Philippe d'honorer des gens comme Épaphrodite, de leur accorder de l'honneur. Des gens de ce calibre nous servent de modèles, des modèles de la foi en action. Et nous avons besoin d'eux. Et nous avons besoin d'être comme eux. Alors, en guise de conclusion, je veux juste revenir à ce passage que François a lu tout à l'heure et nous avons étudié il y a 2 semaines. Car Paul ne nous demande pas de devenir des machines impersonnel de service et de sacrifice. Mais il nous invite à servir de manière sacrificielle, comme Timothée, comme Épaphrodite, parce que nous avons été touchés au plus profond de notre être, de nos cœurs, par celui, notre Maître, qui nous a servi de manière sacrificielle. Donc le verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Je vous invite à la prière. Prions. Merci, notre Père, de nous avoir donné des hommes et des femmes qui ont modélé la foi chrétienne en action dans nos vies. Merci pour ces hommes et ces femmes de consécration qui nous ont apporté l'évangile, qui nous ont montré ce que cela veut dire de te suivre dans la vie de tous les jours. Merci Père de ce que ils étaient vraiment des imitateurs de ton Fils qui lui était animé par de manière exemplaire, de manière ultime par cette attitude de service et de sacrifice. Et nous voulons te demander ce matin, notre Père, de nous aider à suivre son exemple, à prendre modèle sur ceux qui sont parmi nous, ceux qui nous ont précédés, qui suivent fidèlement cet exemple. Aide-nous à fixer notre regard sur ton Fils et à vivre d'une manière qui te plaise, d'une manière qui met les intérêts des autres, leurs vrais intérêts, leurs intérêts spirituels. Aide-nous à les mettre avant nos intérêts personnels. Et je te demande, Père, vraiment de nous aider en tant qu'Église à faire cela. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, parents, familles, célibataires. Je te demande de nous aider vraiment à marcher à ta suite, ressemblant de plus en plus à ton Fils, avec son attitude de service et de sacrifice. Notre Père, nous te demandons ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
Merci Trevor. Un très beau texte. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir prêcher sur